Mathilde, vous avez décidé de vous adresser à Laura Smet et David Hallyday qui viennent de remporter une première victoire dans la bataille pour l'héritage de Johnny.
Oui, bonjour Guillaume. Chère Laura, cher David, vous venez d'apprendre que vous ne serez peut-être pas déshérité. Votre père a été reconnu il y a quelques jours comme résident français, vous rétablissant potentiellement dans vos droits à la succession. Vous voilà avec vos demi-sœurs Jade et Joy aux portes du monde merveilleux des ayants droit. Félicitations. Si la justice finissait par vous donner raison, vous seriez en mesure de toucher de très confortables royalties tirées de la phénoménale carrière de votre père, à commencer par une part des 24 millions d'euros d'actifs gelés par la justice française, de quoi s'ouvrir de belles perspectives. Mais, comme dirait Spider-Man, à super pouvoir, super responsabilité. On imagine toujours les héritiers de grands artistes comme des rentiers se contentant d'entretenir le capital familial et de récolter les fruits d'une vie de travail et de passion. Mais on oublie que cette charge est souvent écrasante. D'abord parce qu'être ayant droit est souvent un job à plein temps. Alors qu'on se destine à une carrière autonome en tant qu'artiste ou dans la vie civile, voilà que le sort vous transforme en machine à défendre les intérêts du défunt. Il s'agit, sans formation au préalable et du jour au lendemain, de devenir juriste, archiviste, entrepreneur, conseiller artistique, voire publicitaire au service de l'œuvre du prestigieux disparu, afin de la faire respecter et de la faire vivre dans les institutions et auprès du grand public. Le Monde Magazine consacrait ce week-end une grande enquête à ses serviteurs de la mémoire dans le monde des arts visuels, comme les héritiers de Charlotte Perriand, de Niki de Saint-Phalle ou de Donald Judd. Tous confirment le poids des responsabilités et la diversité des tâches à accomplir, un vrai sacerdoce. En outre, il ne s'agit pas seulement de lutter contre les vautours, les faussaires, les escrocs, mais de vous faire reconnaître dans des milieux qui vous jugeront un peu béotiens, voire parasite. Et pour quelques grandes familles structurées autour de trusts brassant des millions d'euros par an, comme la Picasso Administration ou Moulinsart S1, pour les héritiers d'Hergé, combien d'ayants droit perdus dans des luttes d'influence. Sachez aussi que quoi que vous fassiez, vous devrez partager votre père avec des millions d'anonymes qui vous suspecteront de dévoyer le sens de son œuvre ou encore de la maintenir sous votre joug. Et il faut reconnaître que certains de vos semblables ont pu nourrir de telles inquiétudes. C'est le cas de Stephen James Joyce, le petit-fils zélé de James Joyce, qui, refusant de laisser les universitaires commenter l'œuvre de son grand-père, à coup de procès, pouvait leur lancer « Vous n'êtes que des Joyciens, je suis un Joyce ». Et combien de veuves ou d'enfants d'artistes bloquent encore des adaptations innovantes ou des rééditions prestigieuses au nom du respect du droit moral, dont la frontière avec les intérêts financiers est parfois bien difficile à établir. Être un ou une ayant droit, c'est être capable de dialoguer avec un fantôme, y compris lorsque le fantôme en question ne dialoguait pas beaucoup avec vous de son vivant. C'est accepter l'artiste tel qu'il est, avec ses parts d'ombre et ses manques, sans céder à la tentation de réécrire l'histoire telle qu'elle vous plaît. Ce n'est pas non plus gérer un stock avec ses terroirs d'inédits et ses innombrables propositions de produits dérivés, mais être un médiateur entre l'héritage artistique dont vous êtes dépositaire et le monde d'aujourd'hui. Chère Laura, cher David, cher Jade et Joy, alors que vous entamez une bataille nouvelle pour voir vos droits reconnus, vous l'aurez compris, on ne naît pas ayant droit, on le devient.